Un écrivain ancien très connu, Origène, disait: ne crois pas qu'il suffise d'être renouvelé une fois pour toutes dans les baptêmes. Ipsa novitas innovanda est. La nouveauté elle-même doit être renouvelée. Et c'est normal parce que nous vivons dans le temps, nous vivons dans un régime de liberté, alors il faut toujours renouer notre alliance avec le Seigneur, toujours redécider, rechoisir le Seigneur. Et c'est ça, c'est la nouveauté. Chaque fois, librement, plus consciemment, choisir le Seigneur. Continuons notre lecture du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je laisse de part les versets dans lesquels Saint-Pierre cite la prophétie de Joël, parce que ça touche les charismes, et on m'a demandé de traiter demain matin ces thèmes des charismes, l'exercice, le discernement des charismes. Alors, je laisse de côté les versets 14 jusqu'à 21, et je continue la lecture à partir du verset 22. « Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Je suis le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres des Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. » Verset 36, la conclusion de ce discours de Pierre: « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. » On a l'impression, en lisant ces chapitres, que Pierre était pressé d'éclairer certains doutes équivoques qui s'étaient produits à propos de la cause de cette ivresse, parce qu'il était pressé d'arriver au point, d'arriver à ce qui lui tenait au cœur. Et c'est pour ça que il attire de nouveau l'attention de l'auditoire. « Homme d'Israël, écoutez ces paroles. » Et puis il prononce un nom. « Je suis de Nazareth. » Il faudrait revenir à ce moment-là, devenir contemporain de cet événement. « Je suis de Nazareth » était oublié pour la plupart d'entre les présents. Il était même inconnu, il était à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, et même ceux de Jérusalem, oui, peut-être avaient entendu qu'il y avait quelques semaines, un certain Jésus de Nazareth avait été crucifié, mais Jésus était presque oublié. On pensait que c'était fini, c'était une affaire fermée. Et maintenant, Pierre prononce ces noms avec toute la puissance et le pouvoir de l'Esprit. Jésus de Nazareth. Et à ce moment-là, Jésus ressuscite dans l'équérigme. C'est l'équérigme qui le fait ressusciter. C'est comme un flambeau que Pierre jette entre l'auditoire. Bien sûr, nous croyons que le Christ est ressuscité dans la réalité historiquement, mais il ne servait de rien que le Christ était vraiment ressuscité s'il était mort pour les gens, s'il était oublié. Maintenant, le Christ ressuscite dans l'équérigme. C'est l'équérigme, la parole, qui le fait revivre. Et parfois, j'ai même l'impression d'être là, de voir ces gens qui se demandent, « Oh, il parle d'un certain Jésus, vous savez, celui que nos chefs ont mis à mort. » Et Pierre, lorsqu'il est bien sûr, on sait de quoi il veut parler, il lance des coups de tonnerre. Vous l'avez crucifié. Encore, tâchons de devenir contemporains. Alors là, des personnes se sont jetées en face ces accusations. Vous l'avez crucifié. Il pouvait très bien réagir et dire « Non, tu te trompes. Nous n'étions pas devant Pilate pour crier « Crucifige ». Nous n'étions pas sur les calvaires. Au contraire, il se taise. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Le travail que le Christ avait bien prédit. Lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de péché. Et tandis que Pierre annonce le Christ en dehors, le Saint-Esprit travaille dans les cœurs des personnes. Vous l'avez crucifié, c'est terrible. Mais il y a tout de suite un autre coup de tonnerre, cette fois libérateur. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et puis cette conclusion, que toute la maison d'Israël sache, serait comme aujourd'hui dire que tout le monde sache. Ça, c'est une affirmation très autoritaire. Là, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas de la conclusion d'un syllogisme. Ça, c'est un parler en autorité. Que la maison d'Israël sache. Seulement Dieu peut parler de la sorte. Les hommes n'ont pas le droit de parler de la, ainsi. Mais Pierre est plein de la puissance de l'Esprit et il sait qu'il peut parler dans cette autorité. Que la maison d'Israël sache que Dieu a constitué Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Nous sommes là face au tout premier annonce. Et les exégètes remarquent que ce discours de Pierre garde assez fidèlement même le langage primitif de l'Église. Au temps où Luc écrit les actes des apôtres, on ne parlait plus de la sorte. On n'aurait jamais dû que Dieu a constitué Seigneur et Christ Jésus au moment de la résurrection des morts. Parce que à cette époque, on savait déjà que le Christ était déjà Messie par son incarnation, par son baptême dans le Jourdain. Mais là, c'est vraiment le langage primitif de l'Église, où la résurrection du Christ est le fondement de tout. Donc nous sommes vraiment en présence du tout premier annonce, et qui est le modèle aussi de toute évangélisation, de toute proclamation. Cette proclamation, ce discours charismatique de Pierre se termine par la proclamation de Jésus comme Seigneur. Seigneur et Christ. Là, il faut un peu s'arrêter. Parce que je crois que là, une des grâces plus profondes du renouveau, et non seulement du renouveau, même d'autres expériences et mouvements dans l'Église d'aujourd'hui, c'est la redécouverte de ces titres de Jésus, Seigneur. Seigneur, oui. Il paraît tellement connu, c'est même une partie du nom de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est là le problème, qu'il était devenu justement un élément du nom du Christ, tandis que là il y a une affirmation. Jésus est le Seigneur. C'est même l'affirmation qui résume tout, synthétise tout. Jésus est mort, il est ressuscité, donc il est le Seigneur. Là, il y avait tout pour les premiers chrétiens. À partir d'un certain moment, déjà au IIIe siècle, on a cru que Seigneur disait relation à serviteur. Non? Donc c'était un titre de Jésus qui qualifiait les disciples comme serviteurs, les seigneurs et puis les serviteurs. Alors Origène disait déjà, mais alors le titre de maître ou d'ami est plus noble que seigneur parce qu'il exprime une relation plus amicale. On avait perdu le sens déjà kérigmatique de ce terme qui pour Paul est tout, au point de pouvoir dire... Si tes lèvres confessent que Jésus est le Seigneur, et ton corps croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Pourrais-je vous demander, mes frères et sœurs français et françaises, de m'aider à faire retentir ici cette proclamation? Est-ce que je peux oser? Alors, vous apprenez ces deux phrases. Jésus est le Seigneur.
Jésus est le Seigneur.
Dieu l'a ressuscité des morts.
Dieu l'a ressuscité des morts.
Et vous le direz lorsque je vous fais signe. Si tes lèvres confessent que Jésus
est le Seigneur.
Et si ton cœur croit que
Dieu l'a ressuscité des morts.
Tu seras quoi?
Sauvé.
Nous serons
sauvés.
Non, nous sommes sauvés. Non, c'est pas encore. Les esprits de l'air ne l'ont pas encore très bien entendu, autrement il aurait tremblé, aurait fait trembler même la salle. Si tes lèvres confessent que
Jésus est Seigneur,
et si ton cœur croit que
Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras
sauvé.
Amen. Amen. Ce qui veut dire, c'est ainsi, c'est la vérité. Lorsque vous savez que entre mes devoirs assez drôles, j'ai aussi le devoir de prêcher au pape, vous le saviez, n'est-ce pas? Je ne suis pas un ancien prédicateur de la maison pontificale, comme on a écrit. Je suis actuellement encore. Le pape est si patient et si humble qu'après 18 ans encore, il me supporte. Une fois, je voulais donner un sermon le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, le sermon se tient dans la basilique de Saint-Pierre avec le pape qui préside la liturgie, mais qui laisse au prédicateur de la maison pontificale de faire l'homélie. Alors, un Vendredi Saint, il y a quelques années, j'ai décidé de parler de Jésus est Seigneur. Il me semblait que c'était l'occasion unique, le Vendredi Saint, le Christ sur la croix, de faire retentir au cœur de l'Église cette annonce « Jésus est le Seigneur ». Et j'ai fait une expérience un peu surprenante pour moi. Chaque fois que je choisis un thème, je choisis, on dit, n'est-ce pas ? Je choisis. Bon. Je choisis un thème. Alors, ma première préoccupation, c'est de voir, alors, d'interroger la tradition pour recueillir ce que les grandes voix de la tradition ont dit là-dessus. Quand je me suis interrogé sur ce thème, « Jésus est le Seigneur », je repensais un peu ce que je connais des pères de l'Église, de la liturgie, etc. Tout se taisait. Il n'y avait presque rien. C'est une redécouverte qui est le fruit plus clair qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit dans l'Église dans ces siècles. Vous savez, les frères qui ont étudié le latin savent que même ces textes classiques dans lesquels on trouve la proclamation « Jésus est le Seigneur », Philippiens 2, 11, avaient été mal traduits de sorte que ce n'était plus une proclamation. C'était « Omnis lingua confiteatur, quia Dominus noster Iesus Christus in gloria est Dei Patris ». C'est-à-dire, on traduisait « que tout genou fléchisse et que toute langue proclame que Jésus-Christ est dans la gloire du Père ». Que Jésus le Seigneur est dans la gloire du Père. Alors l'affirmation c'était non que Jésus est le Seigneur, mais que Jésus est dans la gloire du Père. Amen. Nous savons que la tradition exacte aujourd'hui c'est toute langue professe que le Christ est Seigneur. Là, full stop, comme on dit en français. Et ça à la gloire du Père. Et ça à la gloire du Père. Non que simplement que le Christ, maintenant qu'il est ressuscité, il se trouve dans la gloire du Père. C'est une affirmation assez banale. Toute langue professe que Jésus est Seigneur, que cela à la gloire du Père. Nous voyons donc comme les récits de Pentecôte, c'est une page formidable, c'est une somme de théologie pour l'Église. Tout à redécouvrir. Et nous voyons aussi indirectement un fait. Pourquoi le Saint-Esprit est venu sur les apôtres? Évidemment pour changer leur cœur, pour les sanctifier, pour les convertir, pour leur donner, les détacher de soi-même, le recentrer sur Dieu. Mais une fois qu'accompli ça, le but c'est de proclamer, lancer l'annonce sur Jésus-Christ. L'Esprit vient pour rendre l'Église capable, apte à la mission. Même la sanctification personnelle, les charismes, ne sont pas pour le bien-être de celui qui les reçoit. C'est pour équiper l'Église à porter l'annonce jusqu'aux dernières limites de la terre. L'annonce, donc. D'ailleurs, Jésus l'avait dit très clairement, vous allez recevoir la force de l'Esprit Saint et serez mes témoins. Pour ça, la force de l'Esprit, c'est pour être témoin de Jésus. La mission, donc. Il y a évidemment des formes différentes. On peut seconder cette mouvance de l'Esprit qui pousse à proclamer Jésus de façon différente. Il y a une proclamation publique telle que celle de Pierre le jour de Pentecôte. Il y a aujourd'hui une proclamation officielle de l'Église, verbale, explicite, face à de grands auditoires. J'ai la chance aussi, je n'ai pas aucun mérite, mais j'ai la joie d'avoir l'occasion de pouvoir chaque semaine, le samedi soir, proclamer le nom de Jésus à 1,5 million de personnes à travers la première chaîne de la télévision italienne. J'ai un programme à la télévision italienne chaque samedi soir sur l'Évangile. Alors la joie la plus grande qui me récompense de l'effort terrible que ça demande, c'est de savoir, eh bien ce soir, le nom de Jésus va retentir aux oreilles de 1,5 million de personnes. Donc il y a de grandes occasions et il y a des petites qui ne sont pas moins importantes. Souvent le vrai changement arrive à ce niveau personnel, de témoignage personnel. Je dis ça pour que personne ne puisse dire, eh bien j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai eu le baptême même de l'Esprit, mais je ne vois pas comment je dois évangéliser, quoi je dois faire. Non, le Seigneur Jésus ne laisse personne sans travail. Comment est-ce qu'on dit sans travail? Il y a maintenant en Europe chômage, il y a un chômage terrible, c'est le grand problème. Mais dans l'Église, il ne devrait pas y avoir ces problèmes de chômage. Les 20% maintenant de chômage en certains pays, comme en Italie. Et dans l'Église, peut-être c'est pire. Je connais un négro spirituel, un chant spirituel des Noirs d'Amérique qui sont des chants particuliers, nés de la souffrance, d'une grande foi, qui m'aident beaucoup. Souvent, je les cite, ces chants négro spirituel. Il y en a un qui j'aime beaucoup. Il dit, « There is a balm in Gilead to heal the wounded souls. » Alors, il y a une baume, on dit une baume, un baume. Un baume, balsamo, baume, un baume. Il y a un baume in Gilead pour guérir les âmes blessées. Il y a un baume in Gilead. Gilead était une ville très célèbre dans l'Ancien Testament pour ses parfums, ses baumes. Eh bien, ce chant a un goût spécial. Il voit dans ces baumes, parfums de Gilead, un symbole évidemment du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui guérit les âmes blessées. There is a balm in Gilead to heal the wounded souls. Sometimes I feel discouraged. A volte mi sento giù, scoraggiato. Y a-t-il quelqu'un qui se sent dans cette situation? Parfois je me sens découragé. Et je pense que mon travail a été en vain. Mais alors, le Saint-Esprit vient et ravive mon âme. Then the Holy Spirit revives my soul again. But cette fois, ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Une strophe dit, « If you cannot pray like Peter, if you cannot preach like Paul, go home and tell your neighbor that Jesus died for all. » Si tu n'es pas capable de prier comme Pierre, si tu n'es pas capable de prêcher comme Paul, va chez toi, reviens chez toi et dis à tout le monde que Dieu, que Jésus est mort pour tous. Voilà ta façon d'être évangélisateur. Donc personne ne doit rester en dehors de cet engagement. Mais pour ça, c'était nécessaire que le Saint-Esprit vienne sur l'Église. Seulement après avoir reçu le Saint-Esprit, on voit Pierre, les onze, cette Église qui a une force irrésistible pour proclamer le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, si nous voulons vraiment évangéliser, tâcher de réévangéliser la France, l'Europe, il faut recevoir la force d'anneau, il faut recevoir le Saint-Esprit, toujours l'avoir reçu, le recevoir de nouveau, même ces jours. Ça a été aussi mon expérience. Avant de recevoir cette nouvelle grâce du Saint-Esprit, j'enseignais à l'université de Milan, peut-être j'ai eu l'occasion déjà de mentionner, j'enseignais histoire des origines chrétiennes, j'étais même directeur d'un département de cette université. Et ma spécialité était précisément la christologie. J'avais fait mon doctorat à Fribourg, en Suisse, sur la christologie de Tertullien. Donc j'écrivais des articles sur les Christ selon Paul, Jean, les hellénistes, et puis, etc. Et puis j'ai connu le renouveau. On m'a tiré dans le renouveau, par les cheveux. Maintenant, je n'en ai plus, mais j'en avais. Alors que je ne vous dis pas toute l'histoire, mais j'ai reçu donc cette grâce, le baptême dans l'esprit. Et une des premières conséquences, une des premières manifestations, ça a été que l'idée de Jésus est changée. Mais la personne de Jésus est changée à moi. Je priais Jésus, évidemment, je l'aimais aussi. Mais Jésus était plutôt un objet d'étude. Il y avait une distance quand même, il y avait une distance. Jésus était un mémoire, pour un ensemble de doctrines, de récits, de dogmes, de livres, de théories, etc. Et puis le Saint-Esprit, cette grâce nouvelle, m'a aidé à prendre conscience qu'il y a un autre Jésus, et Jésus vivant, ressuscité, vivant, présent. Je me rappelle qu'en lisant à ce moment le texte de Paul, Philippiens 3, lorsqu'il dit « J'ai tout quitté pour parce que j'ai trouvé cette sublime connaissance du Christ, qui est le Christ mon Seigneur, j'ai tout quitté, j'ai considéré tout comme de la balayure. Afin que je puisse connaître lui. » À ce moment, ses pronoms personnels, lui, me paraissait contenir plus vérité sur Jésus que tous les livres. Lui signifie le vrai Jésus, en chair et os. Est-ce qu'on dit en français en chair et os? Oui. Et os? Et os, oui. Oui, il y avait une différence. Il y avait si bien que depuis le Seigneur m'a fait faire un pas, m'a fait tout quitter l'université pour devenir simplement un prédicateur itinérant de l'Évangile. Vous savez qu'à Florence, il y a une célèbre statue de Michel-Angelo, le David de Michel-Angelo. Eh bien, beaucoup de touristes qui visitent Florence s'arrêtent devant cette statue de David qui est en dehors sur la place de la Signorie et l'admirent, ils font des commentaires sur la beauté, l'art de ces statues de Michel-Angelo. Ils ne savent pas que c'est une copie. Le vrai David de Michel-Angelo est à l'intérieur, dans un musée. Il faut prendre de la peine à aller le chercher ailleurs. Eh bien, vous avez compris ce que je veux dire. Souvent, le Jésus que nous voyons, que les chrétiens distraits croient de connaître, c'est une copie morte. Il faut chercher ailleurs. Il y a caché dans l'Église, dans la foi de l'Église, dans l'Écriture, le vrai Jésus. Et c'est l'Esprit qui ouvre cette porte. Alors, si tu professes avec tes lèvres que
Jésus est le Seigneur,
et si ton cœur croit que
Dieu l'a ressuscité,
nous serons sauvés. Nous sommes. Maintenant, vous le savez, donc, il ne faut pas préciser. Mais il y a un élément qu'il faut mentionner. Le Saint-Esprit n'a pas donné à Pierre et aux autres apôtres simplement une connaissance nouvelle du Christ comme Seigneur. Il leur a donné l'amour pour Jésus. Et c'est l'amour qui évangélise. La parole, la doctrine, sans l'amour, n'évangélise pas, ne suffit pas. Ne suffit pas. C'est l'amour du Christ qui nous pousse, disait saint Paul, à la pensée qu'un est mort pour tous. C'est l'amour du Christ qui nous pousse à évangéliser. Et le Saint-Esprit a vraiment rempli de cet amour qui, au fond, c'est l'amour que le Père même a pour le Christ. Les a contagiés avec cet amour qui les pousse. Aujourd'hui, on peut évangéliser, vous savez, par de différentes raisons. Il y en a qui évangélisent parce que c'est un devoir. L'Église le dit, alors il faut évangéliser. Il y en a d'autres qui évangélisent parce qu'ils croient, comme d'ailleurs l'Évangile le dit, que quand l'Évangile sera arrivé aux extrêmes limites de la terre, le Christ reviendra et ce sera fini, on fermera les portes et on s'en ira avec le Seigneur dans le bienheureux paradis. Alors il faut hâter ces moments dans lesquels l'Évangile arrive aux limites et depuis alors sera l'eschatologie, la parousie. C'est une raison eschatologique qu'il ne faut pas déprécier, mais souvent peut-être aussi limitative, un peu négative. Il y en a qui évangélisent pour augmenter le nombre des adeptes. Quel est le vrai motif qui devrait animer l'évangélisation? C'est l'amour pour le Christ et pour les hommes, pour le monde. Pourquoi le Père a envoyé le premier missionnaire sur la terre, c'est-à-dire Jésus? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous. Pourquoi Jésus évangélisait? Parce qu'il était plein de compassion pour les gens qui ne savaient rien, qui voyait comme brebis sans pasteur. C'était sa compassion profonde. Et aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit est nécessaire pour nous donner cet amour qui ne peut pas venir de nous. Nous ne pouvons pas les fabriquer. C'est un amour que nous pouvons quand même invoquer, chercher dans la prière. L'amour pour le Christ et l'amour pour le monde. Sans quoi l'évangélisation devient stérile. Souvent j'en fais moi-même l'expérience, hélas je dois confesser ma faute. Si on est envoyé à prêcher, il faut se préoccuper, même dans sa petitesse, sa faiblesse, de demander au Seigneur de nous donner son amour pour le peuple auquel tu annonces la parole de Dieu. Autrement, les paroles seront des pierres que tu jettes contre les gens et qu'ils te renvoient. S'il n'y a pas l'amour, c'est l'amour, le canal qui fait passer la parole. Toujours, je suis un peu frappé par l'expérience de Jonas. Peut-être quelqu'un l'a lu quelque part, mais je n'ai pas peur de me répéter, vous savez. Je n'ai pas peur, parce que Jésus n'avait pas peur de se répéter. Il disait les mêmes choses souvent, Paul aussi. Jonas n'aime pas les Ninivites. Oh non, il ne l'aime pas du tout. D'abord, il essaie de s'enfuir, et puis vous savez, Dieu le ramène à Ninive, et il commence à prêcher. Et si vous remarquez, si vous lisez les livres de Jonas, vous verrez que lorsque Jonas annonce la destruction de Ninive, il est très éloquent. Il semble bien qu'il se réjouit. Encore 40 jours, et Ninive, ce sera fini, détruite. Et on perçoit une espèce de réjouissance là-dedans. Et puis vous savez, Dieu a compassion, les Ninivites se convertissent tous. Et Jonas entre en crise. Il devient triste, il recule sous un arbre. Puis le Seigneur n'a pas fini sa leçon, donc fait sécher l'arbre. À quoi la révolte de Jonas éclate. Je vais mourir, je savais déjà que tu es un Dieu qui pardonne toujours. Et Ninive, c'était l'ennemi de Jérusalem. Vous savez à quoi correspond aujourd'hui Ninive? Non? Ah, c'est un poisson de la terre aussi aujourd'hui, vous savez, c'est Bagdad. Alors, beaucoup voudraient même que se répète l'histoire de Jonas aujourd'hui, beaucoup d'Américains surtout. Eh bien, alors Dieu vient et commence à parler à Jonas. Et on voit clairement que Dieu a plus de la peine à convertir son prédicateur que tout le reste de Ninive. Est-ce que je ne devais pas pardonner ces gens qui ne savent pas distinguer la droite de la gauche? Alors Dieu doit s'excuser près de Jonas à cause de sa miséricorde. Et depuis, c'est un enseignement formidable dans ce livre de Jonas. Mais pour nous aussi, il faut faire attention si vraiment nous partageons l'amour du Christ, la miséricorde de Dieu, lorsque Dieu nous envoie quelque part à prêcher. Ce serait déjà assez pour ce soir, n'est-ce pas? Mais je dois encore vous dire quelque chose. Vivre dans la Pentecôte, c'est un peu comme être sur ces estrades. C'est vivre sous le feu et lumière. Feu et lumière. Bien, le dernier tableau alors du récit de la Pentecôte, écoutons-le d'abord. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait, « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Et donc accueillant la parole, se firent baptiser. Ils s'adjoignirent ce jour-là environ 3000 âmes. Ce qu'ici, c'est la description plus de la première communauté chrétienne qui est le fruit mûr de la Pentecôte. Donc, frères, que devons-nous faire? On m'a passé les questions que vous avez écrites ce matin, et une des questions qui revient souvent, c'est bien que qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais quoi manque? Pourquoi ne faisons-nous cette expérience brûlante de la nouveauté de l'Esprit? Il semble que tout continue comme avant. Est-ce qu'il y a un obstacle? Quelqu'un disait, est-ce qu'il y a un obstacle que nous ne connaissons pas? Oui, oui, il y a un obstacle bien précis. Les péchés. L'unique obstacle, les péchés qui empêchent l'action de l'Esprit. C'est pour ça que maintenant nous voulons un peu méditer sur ces paroles. Ils eurent le cœur transpercé. Qu'est-ce que ça signifie? Que cette accusation, vous avez crucifié Jésus de Nazareth, il avait bien comprise, il avait appliqué à soi-même, il s'était convaincu qu'ayant péché, ayant commis un péché dans leur vie, ils avaient crucifié le Seigneur. C'est la conviction intérieure de l'Esprit qui convainc de péché. D'ailleurs, ils pouvaient se rappeler que les serviteurs de Dieu dans les prophètes Isaïe, on disait qu'il avait été écrasé par les fautes, les crimes des hommes. Alors, maintenant qu'on savait que le Christ était ses serviteurs, c'était pas très difficile de savoir que oui, tous, pas les Juifs, pas Pilate, pas les autres seulement, tous avaient crucifié le Seigneur. Ils ont eu cette grâce extraordinaire. C'est le mystère pascal qui devient réalité. Le mystère pascal devient réalité le jour dans lequel tu te rends compte que ce n'est pas une histoire loin de qui s'est déroulée en dehors de toi, que tu es pour cause, qu'il est mort aussi à cause de toi. Et bien sûr, pour nous qui lisons ces récits de la Pentecôte, comme je disais ce matin, non comme un récit pour nous instruire, pour nous rappeler, mais comme mémoire, mais nous le lisons pour actualiser, pour vivre. Eh bien, mes frères, mes sœurs, vous le savez, alors il faut passer, nous aussi, par ces moments dans lesquels nous reconnaissons que nous avons crucifié le Christ. Et j'insiste un peu parce qu'on m'a dit que cet après-midi devait être un peu un temps de pénitentiel dans lequel on tâche de vraiment prendre au sérieux le péché afin de pouvoir de nouveau recevoir l'effusion de l'Esprit. Et donc, il faut s'ouvrir simplement. Ces gens n'ont pas fait résistance. Tout leur mérite, c'est de ne pas avoir mis un obstacle, de ne pas avoir fait opposition à l'œuvre du Saint-Esprit. C'était possible de faire opposition, vous savez. On le voit clairement. Pierre fait le même discours, presque littéralement le même, au chef du Sanhédrin, et puis aux scribes et aux pharisiens, peu jours après. Mais là, on voit que les résultats, c'est tout à fait différent. Ils furent pleins de rage et voulaient lapider les apôtres. Quoi ? À nous, cette accusation ? Ils ne purent pas les lapider parce qu'il y avait le peuple, mais lorsqu'il s'agissait d'Étienne, ils le firent. Donc, face à cette accusation, vous avez crucifié le Christ, on peut prendre des directions complètement différentes. Ou ouvrir les bras, comme ces 3000 qui constituèrent la première Église, et dire, c'est vrai, que devons-nous faire, frère ? S'ouvrir à la repentance, se laisser transpercer le cœur, katenougesan, dit le texte original, furent transpercés au cœur. Une lumière, évidemment, pas une épée, une lumière de vérité. Et là, c'est entré vraiment dans le mystère pascal. On voit bien que la Pentecôte ne détache pas du mystère pascal. Au contraire, c'est la Pentecôte qui fait revivre la Pâque du Christ, qui tient vivante la mémoire du Christ. Eh bien, quelle est la réponse de Pierre ? Repentez-vous, faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés, et puis vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voilà une prophétie pour nous, ici. Repentez-vous, prenez au sérieux ce repentir, et vous verrez que Dieu n'est pas infidèle. Il donne son esprit. Seulement, il ne faut pas penser que le don du Saint-Esprit est quelque chose de mécanique, comme un mécanisme qui s'ouvre, et puis tout sent. Non, c'est toujours une aventure de foi. La Pentecôte, c'est une aventure de foi. Il faut renoncer à dicter à Dieu la manière dont il doit agir. Il agit parfois rapidement, d'une façon dramatique, dans d'autres cas, après des jours, lentement, mais après les personnes se rendent compte que Dieu est passé dans leur vie, peut-être d'une manière plus profonde qu'ils ne s'attendaient pas. Alors il faut laisser Dieu libre, mais il faut croire que si on suit ses directives, ce que la parole de Dieu nous dit, si on demande, on renonce au péché, le Saint-Esprit vient. Certainement, Dieu ne peut pas être infidèle. Eh bien, à ce moment-là, les signes, le sacrement nécessaire pour marquer cette renonciation était le baptême, parce qu'il n'était pas encore baptisé. Nous sommes tous baptisés, n'est-ce pas, ici ? À peu près. Alors, pour nous, il y aura une autre chance, ce que le Père appelait la deuxième table de sauvetage après les naufrages qu'on fait dans les péchés, qui est le repentir. Pour nous les catholiques, il y a un sacrement spécifique, le sacrement de la réconciliation, dans lequel nous entrons en contact avec le pouvoir du Christ ressuscité qui, à travers son esprit, détruit nos péchés, notre péché. C'est un sacrement qu'il faudrait redécouvrir, c'est pas quelque chose de pénible. C'est une magnifique occasion de rencontrer le Christ et d'être aussi sacramentalement, visiblement, être touché par son pouvoir, être libéré. Mais pour tous, il y a se repentir, qui est évidemment la condition même du sacrement, cette repentance intérieure du cœur. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Metanoia. Metanoéite, dit Pierre ce jour. Le même verbe que Jésus employa lorsqu'il commença à prêcher l'évangile. Convertissez-vous, metanoéite. Littéralement, le terme signifie un changement, un renversement du jugement, de la manière de penser, de la mentalité. Alors, on pourrait dire que la repentance, c'est de laisser de côté mon vieil jugement, le jugement que je porte sur moi, sur le monde, sur l'Église, sur les groupes de prière, et puis de me former un nouveau jugement, une mentalité, une manière de penser un peu différente, peut-être plus pieuse, plus évangélique. Non, ce n'est pas encore la repentance. La repentance est quelque chose de miraculeux, prodigieux. La repentance vraie, c'est lorsque j'abandonne mon jugement, ma manière de voir les choses, et j'accepte le jugement de Dieu. C'est entrer dans le jugement de Dieu, la repentance. C'est renoncer à tout jugement, et accepter sur soi, sur les autres, sur le monde, le jugement de Dieu qui est l'unique vrai. C'est pour ça que dans les psaumes 51, ces magnifiques psaumes de la repentance, on dit à Dieu, on proclame, tu es juste dans ton jugement, Seigneur. Tu es juste lorsque tu juges. Ça, c'est comme la définition de la repentance. C'est se rallier du côté de Dieu. C'est rallier du côté de Dieu. C'est quelque chose de prodigieux. C'est pour ça que la repentance est vraiment une chose essentielle pour les chrétiens. Essentielle. Et c'est magnifique parce que c'est entrer dans le cœur de Dieu et commencer à voir les choses comme le voit Dieu lui-même, voir les péchés, ma vie, mon mariage, mon groupe de prière, avec ses yeux de vérité, de sainteté, de miséricorde qui sont les yeux de Dieu. Pratiquement, il suffit dans ces moments de recueillement de dire « Seigneur, je ne me connais pas, je ne connais pas la vérité sur moi-même ». Peut-être je me juge trop mal ou trop bien, je m'excuse, je m'accuse erronément. Il n'y a que toi qui connais la vérité sur moi. Personne, pas même mon directeur spirituel. Toi, tu seul connais la vérité. Bien, j'accepte ta vérité sur moi. Et c'est être transpercé par la vérité de Dieu, la vraie métanoïa. Se laisser signer, transpercé par le jugement de Dieu qui est un jugement qui sauve, évidemment. C'est la justification. Ça, c'est la fameuse justification. Dieu qui prononce un jugement, mais un jugement non pour dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, non. On le sait bien, Saint Augustin l'avait dit, Luther nous l'a rappelé, ces jugements, cette justification de Dieu est active, c'est-à-dire c'est l'acte par lequel Dieu nous rend, nous proclame et nous rend juste. Alors la métanoïa, c'est l'autre face de la justification de Dieu. Dieu qui prononce, après que nous avons reconnu notre péché, il prononce son jugement de justification, de pardon, de miséricorde. Alors pour revenir à cette question que quelqu'un m'a posée, est-ce qu'il y a un obstacle pour lesquels les dons du Saint-Esprit ne s'épanouissent pas assez dans ma vie, dans mon groupe, dans le renouveau. Oui, et pour enlever cet obstacle, il s'agit de rompre définitivement avec les péchés. L'expression se trouve dans la première lettre de Pierre, rompre définitivement avec les péchés. Eh bien, il faut s'entendre évidemment parce que ce ne serait pas possible de supposer que nous allons devenir impeccables après le retour de Villefranche. En revenant de Villefranche, nous sommes impeccables. Non, il ne s'agit pas de ça. Le Seigneur le sait que même les justes pêchent 7 fois par jour. Mais il s'agit d'individuer, découvrir ses péchés auxquels nous sommes secrètement attachés. avec lesquels il y a une sorte de connivence. Nous pensons que nous ne pourrons jamais nous passer de cette habitude, de ces loisirs, de cette satisfaction, de cette omission, de ces marges de liberté. Nous pourrons jamais parvenir à ce point-là, parce que nous ne le voulons pas, en effet. Nous pensons que c'est impossible, c'est trop nous demander. C'est parce que nous ne le voulons pas. Il faut couper cette branche. Dominique Ferry m'a rappelé ces jours, dans une conversation, une image que j'ai employée quelquefois, que maintenant je vais répéter. Alors, en Italie, il y a beaucoup d'oliviers, je pense aussi en France, au moins au sud de la France, n'est-ce pas? Et l'olivier, c'est un arbre qui a le pouvoir de me fasciner. Donc, on voit souvent des oliviers aux troncs tout craquelés, desséchés, et qui paraissent des arbres morts depuis des siècles. Mais en dépit de ça, on voit qu'il y a de belles olives encore, des branches vertes en haut, au sommet, avec de belles olives. Comment ça se fait? C'est qu'à travers, quelque part, à travers ces ensembles noués et secs, il y a une veine de bois vert qui plonge dans le terrain et qui maintient l'arbre en vie. Donc, aussi l'arbre du péché dans notre vie devait être sec, mort, parce que nous l'avons tant de fois coupé, confessé, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a de belles olives. Lorsque nous allons à la confession, il y a toujours une récolte. Comment on dit la récolte des olives? Non, des vendanges. Les vendanges, c'est pour les raisins, n'est-ce pas? Eh bien, chaque fois que nous allons nous confesser, il y a de belles olives à cueillir, n'est-ce pas? C'est que quelque part il y a une veine qui plonge dans le terrain de notre liberté. Il faut couper cette veine, cette branche, dire c'est fini entre moi et les péchés, c'est fini, assez. L'expression est toujours de Pierre dans la première lettre, chapitre 4. Assez, ça n'est assez avec les passions du passé. Pour ce qui est à moi, Seigneur, je connais ma faiblesse, je sais que je peux retomber, mais pour ce que dépend de moi, je dis avec moi, et c'est cette satisfaction, cette habitude, cette relation, c'est fini. Aide-moi. Saint Augustin a eu le mérite de nous décrire ouvertement, avec une humilité incroyable, le processus de sa conversion. Il dit qu'il y a eu un moment. Pour lui, les problèmes, la branche verte, c'était, vous le connaissez, c'était les rapports avec la femme. Il pensait qu'il ne pouvait jamais vivre sans sa femme, sans être uni à une femme. Il y eut un moment où il avait accepté la vérité chrétienne entièrement, il était fasciné par le Christ, mais il manquait cela. Et il priait le Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi la chasteté, Seigneur, donne-moi la pureté. Mais il dit qu'à ce moment, il y avait une petite voix en lui qui ajoutait, mais pas tout de suite, je t'en prie. Jusqu'au jour où il eut le courage, sollicité par la parole de Dieu, notamment le chapitre 13 de la lettre aux Romains, là où il dit, le jour est venu, il faut laisser de côté les débauche, etc., où il le courage, c'est la grâce qui épouse la liberté, c'est un moment mystérieux dans lequel la grâce rencontre notre liberté. Et il dit, pourquoi ce n'est pas maintenant? Pourquoi toujours demain, demain, demain? Vous savez qu'en latin, demain se dit crasse, crasse, oui. Ceux qui connaissent le latin le savent très bien, crasse. Et crasse est aussi un son onomatopéique de cet oiseau qui en français s'appelle les corbeaux. Les corbeaux, n'est-ce pas? Alors, Saint Augustin, c'est pourquoi je fais les vers de corbeau tous les temps de ma vie, crasse, 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 pourquoi ne pas dire aujourd'hui, ce moment? Et du moment qu'il eut le courage de dire c'est fini, il dit qu'il se sentit une lumière de sérénité qui le trapassait. Il vient chez son ami Alipius et lui dit, c'est fait. Donc il faut avoir le courage de dire, maintenant, aujourd'hui, à cette occasion, je vais donner au Seigneur, lui faire sacrifice de cet Isaac, de ses fils, l'immoler. Mais il faut faire tout de suite un acte contraire à cette tendance, cette habitude, cette omission, ces péchés donc, qui est différent de personne à personne. Il faut faire, dès que nous rentrons chez nous, il faut tout de suite faire un acte pour montrer à nous-mêmes, aux autres, même aux démons évidemment, que nous sommes bien décidés, que c'est fini. Et là aussi, j'aime une anecdote de Kierkegaard qui m'aide beaucoup à exprimer ce que je vais dire. Alors, Kierkegaard, qui était un prédicateur formidable, qui aimait Jésus d'une façon aussi vraiment tendre et admirable, il commente la lettre de Jacques et il dit, voilà, un homme s'est regardé dans le miroir de la parole de Dieu. Parce que Jacques dit que la parole de Dieu est un miroir. Eh bien, il s'est regardé dans ce miroir et le miroir lui a dit que son péché, ces péchés dont je parlais, c'est la passion du jeu. Non le jeu innocent, évidemment, les jeux d'hasard. Est-ce qu'il y a un terme spécial? En anglais, il y a gambling. Hein? Non, le jeu, donc. Alors, cet homme persuadé par la parole de Dieu que son péché, c'est cet esclavage du jeu, il s'arrête et il dit, Seigneur, j'ai compris mon péché, je fais un vœu solennel de ne plus jouer dans ma vie, jamais plus, Seigneur, jamais plus. Ce soir, ce sera la dernière fois, Seigneur. Évidemment, il n'a rien conclu. Il ne faut pas dire ce soir, il continuera toute la vie à dire ce soir, ce sera la dernière fois. Plutôt, il devait dire, eh bien, si je ne peux pas vivre sans jouer, eh bien, je jouerai tout le reste de ma vie. Mais ce soir, non. S'il maintient ses propos, il est guéri. Il est probablement libéré. Eh bien, avec ces paroles de Dieu, ouvrons ces temps de réflexion, d'examen de conscience, d'ouverture à la grâce de Dieu qui nous appelle, moi, le premier, à une nouvelle conversion, à enlever l'obstacle unique qui peut empêcher la venue du Saint-Esprit qui est le péché. Et terminons en rappelant la parole de Pierre, c'est pour vous la promesse et pour vos enfants. C'est pour vous. Maintenant signifie c'est pour vous, pour nous, pour aujourd'hui, la promesse du Saint-Esprit. Amen.